L'EM, l'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Transistor, le nouveau nom Radio Évasion. C'est en direct à midi et c'est en rediffusion à 18h. La mucoviscidose, c'est une maladie dont le nom est connu. Pour le grand public, elle s'incarne dans des personnalités, ou plutôt la maladie s'est incarnée, parce que souvent il faut parler au passé. On se souvient notamment du jeune chanteur Grégory Marchal qui a succombé à la mucoviscidose, très jeune. En Bretagne, la mucoviscidose, ce sont aussi plusieurs événements sportifs et solidaires au profit de la recherche, comme la rando muco, les virades de l'espoir, la course cycliste Pierre Le Bigot. D'autres défis plus personnels, comme ces deux athlètes qui ont parcouru 650 km en roller de Roscoff à Paris l'été dernier. Mais sinon, la mucoviscidose en tant que maladie, en tant qu'objet scientifique, elle est sans doute moins bien connue du grand public. Voilà pourquoi il nous a semblé intéressant de recevoir un chercheur qui y travaille, Tristan Montier, qui est professeur de médecine, praticien hospitalier et surtout directeur de l'équipe GTCA, au laboratoire génétique, génomique, fonctionnelle et biotechnologie de l'Université de Bretagne occidentale. Bonjour.
Bonjour.
GTCA, dites-nous.
Gene Transfer and Combined Therapeutic Approaches. En français, dans le texte, donc transfert de gènes et approche thérapeutique combinée.
D'accord, très bien. Donc ça veut dire que vous parlez de génétique. La mucoviscidose est donc sans doute une maladie génétique, vous allez nous le dire. Enfin, il y a peut-être plusieurs mucoviscidoses d'ailleurs.
Alors, effectivement. Alors, la mucoviscidose, c'est la maladie un petit peu emblématique de ce qu'on appelle les maladies rares, c'est-à-dire ces maladies qui touchent quelques centaines, quelques milliers de personnes. En France, environ, la mucoviscidose, c'est 8000 personnes qui souffrent de cette pathologie. Effectivement, avec des tableaux cliniques qui peuvent être très différents selon le type de mutation que l'on va rencontrer dans le gène impliqué, à savoir CFTR.
Il y a quand même un seul gène impliqué.
Oui, qui est situé sur le chromosome 7, le 7e chromosome. Et en fait, on a 6 classes de mutations. Les 3 premières sont les plus sévères et les 3 dernières sont plus légères.
Oui, donc on a identifié combien de formes si...
Alors, il y a eu plus de 2000 mutations qui ont été identifiées, hein, dont 600 l'ont été par le labo de Brestois, hein, avec notamment Claude Ferrec qui a passé une bonne partie de sa carrière professionnelle à rechercher ces mutations. Et à mieux comprendre en fait le lien entre ces mutations et les formes cliniques qu'on pouvait observer chez les malades.
La mucoviscidose pour un patient, comment ça se traduit, surtout les formes graves en fait ?
Alors c'est une forme qui a évolué au fil du temps. C'est une pathologie qu'on connaît maintenant depuis presque 100 ans, hein, qui a été caractérisée par Dorothy Anderson dans les années 30.
Avant, on la confondait avec la tuberculose, en gros ou...
Non, pas vraiment, mais on savait déjà depuis très longtemps, parce qu'il existait dès le Moyen-Âge, on en a des preuves écrites, du fait que les anciens avaient fait ce lien entre la salinité de la sueur et la survenue d'un décès précoce, puisqu'il y avait un dicton qui disait « Malheur à l'enfant qui vous laisse un goût de sel sur les lèvres, lorsque vous l'embrassez sur le front, bientôt il mourra ». C'était déjà un lien que nos anciens, dans leur sagesse d'observation, avaient identifié. Mais la compréhension de la pathologie, c'est vraiment dans les années 30. Et à l'époque, d'ailleurs, on l'appelait fibrose kystique du pancréas. Donc souvent, aujourd'hui, on associe la mucoviscidose avec un problème respiratoire.
Oui.
Mais en fait, à l'origine, c'était une maladie gastro-intestinale de l'enfant. Et on est passé maintenant, par la prise en charge précoce, le dépistage naturellement, on est passé à une forme pulmonaire de l'adulte.
Mais sinon, les manifestations, c'est quoi en fait ? Enfin, dans l'ordre, elle s'attaque à quoi? Alors, la mucoviscidose,
ouais. La mucoviscidose, aujourd'hui, elle touche à la fois l'appareil respiratoire, bien entendu. C'est ce dont décèdent aujourd'hui les malades, mais on y reviendra parce qu'il y a eu des progrès
depuis
l'identification du gène qui a été cloné en 1989, donc c'est pas si ancien que ça. Mais on a une manifestation digestive. D'ailleurs, l'ileus méconial, c'est-à-dire la première selle qu'ont les enfants juste après leur naissance, était hyper-écogène. C'est-à-dire qu'il était tellement dur, tellement dense, qu'on pouvait, dans certains cas, l'observer par échographie. Et c'était un signe d'appel de cette pathologie. Donc des manifestations digestives et également des manifestations au niveau de l'appareil reproducteur, au niveau, on l'a mentionné tout à l'heure, de la peau, puisque la peau va engendrer une sueur particulièrement salée. Hein, le fameux test de la sueur qu'on retrouvait souvent dans le cadre de la mucoviscidose.
Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'elle produit, cette modification génétique, ouais, par exemple dans les poumons ou dans l'appareil digestif?
Alors, pour ça, on va faire un petit peu, on va faire un bref rappel au niveau moléculaire et cellulaire de ce qui se passe.
Oui, s'il vous plaît.
En fait, ce gène, comme tous les gènes, il va coder une protéine qui s'appelle CFTR.
Pardon ?
C'est une grosse protéine, 1480 acides aminés, gros machin, c'est un canal qui est un canal chlore qui permet en fait de faire les échanges des ions chlorure entre l'intérieur de la cellule et l'extérieur de la cellule.
Ouais, d'où le sel, enfin le rapport avec la salinité.
Exactement. Et non seulement c'est un canal pour la transmission des ions chlorure, mais il régule les ions sodiques, les ions Na+, finalement. Et donc, quand il n'est pas là, quand la protéine ne fonctionne pas ou que la protéine est absente du fait du type de mutation, eh bien cette protéine qui est normalement à la membrane de la cellule n'est pas là. Elle n'est pas stable ou elle ne fonctionne pas. Et résultat des courses, les échanges des ions que j'ai mentionnés, les ions chlorure et les ions sodiques, eh bien, passent selon d'autres systèmes.
Ils passent quand même.
Oh. Oui, mais ils vont entraîner des dérèglements qui vont entraîner une absorption très importante d'eau. Et donc, le mucus, qui normalement a une certaine, structure et une certaine épaisseur, va devenir très, très visqueux. Finalement, c'est un petit peu comme lorsque vous faites du caramel. Plus vous allez attendre, plus vous allez chauffer, plus l'eau va s'évaporer et plus ça devient visqueux. Ici, c'est un petit peu la même chose. L'eau rentre dans les cellules, déshydrate le mucus. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notamment au niveau, quand nous respirons les micro-organismes qui peuplent notre atmosphère. Champignons, bactéries,
Bien
virus.
Sûr,
Et en fait, comme le mucus est très visqueux, il reste scotché, entre guillemets, dedans. Et ils vont y faire leur nid. Non, chez une personne saine, on va dire pas atteinte de mucoviscidose, eh bien, les petits cils qui sont à la surface des cellules, les cellules épithéliales, eh bien, font remonter le mucus dans lesquels sont piégés les bactéries, les champignons et les virus. Et la plupart du temps, soit vous les expectorez, soit vous les avalez. Donc, elles ne restent pas. Or là, c'est tellement visqueux qu'ils vont y rester. Ils vont y rester, et il fait chaud, il y a de la nourriture, ils ne sont pas éliminés, ils s'y trouvent bien. Or, le problème, c'est qu'en présence de ces bactéries, le système immunitaire va vouloir réagir. C'est bien normal, c'est son rôle. Et en réagissant, il va chercher à détruire les bactéries, mais il détruit aussi les bonnes cellules, celles qui aident à la respiration. Donc, progressivement, on remplace des cellules qui servent à la respiration par de la fibrose. On a la même chose chez les mineurs, avec les agressions de micro-cristaux de carbone. Et en l'espèce, eh bien progressivement, les échanges gazeux se font moins bien, puisque la cellule fibroblaste, elle est plus épaisse que la cellule qui permet les échanges de gaz. Et au fur et à mesure, la teneur en oxygène dans les artères diminue, ce qui fait qu'au moindre effort, les gens sont essoufflés.
Parce que normalement, on doit avoir quel taux d'oxygène dans le sang à peu près pour être bien quand on est en bonne santé?
Normalement, vous êtes à une saturation en oxygène de 100%.
Hein.
C'est ce qu'on regarde quand vous arrivez aux urgences, par exemple. On regarde la saturation en oxygène. Après, on peut mesurer d'autres paramètres, mais celui-là, c'est le premier et il est très pratique d'utilisation. Et progressivement, donc, ces gens perdent en capacité respiratoire aujourd'hui, puisqu'on a réussi au fil du temps, en connaissant mieux, je dirais, les signes cliniques, on a adapté la nutrition, ce qui fait que les problèmes digestifs qui conduisaient souvent à des occlusions intestinales, à des péritonites, eh bien, ont progressivement disparu. Et maintenant, depuis qu'on a identifié le gène, et grâce au travail de Claude dans les années 90, ce gène a été dépisté d'abord en Bretagne, puis dès les années 98-99, et étendu à l'ensemble de la France en 2001.
Mais la protéine, elle est défectueuse que dans certaines cellules, que dans les cellules, par exemple,
cellules épithéliales. En fait.
C'est quoi alors épithélial?
C'est
quels organes en gros,
Et du coup, on le retrouve justement dans les intestins, puisqu'on a des cellules épithéliales. On le retrouve également au niveau du poumon, etc. etc. Donc, on va le retrouver. C'est pour ça qu'on a un tableau clinique extrêmement large qui explique que finalement, on a eu besoin de traiter tous ces organes les uns derrière les autres.
Et quand vous parliez de muqueuses qui deviennent visqueuses, en fait, ça veut dire que pas toutes les muqueuses du corps sont atteintes.
Justement. Et ça,
la salive, par exemple. Enfin, non, c'est pas une muqueuse, en fait. C'est ça.
Ah, si, mais c'est. Par exemple, on aurait pu prendre chez les femmes atteintes de mucoviscidose, on avait une augmentation de la viscosité de la glaire cervicale, c'est-à-dire au niveau gynécologique.
Bah oui, déjà.
Et donc, ce qui contribuait à une hypofertilité de ces femmes. Et c'est aussi pour ça que notre service à Morvan s'appelle service de génétique médicale et de biologie de la reproduction, parce que finalement, on était obligé naturellement d'accompagner ces couples lorsqu'ils souhaitaient un deuxième enfant, ou bien qu'aujourd'hui, des femmes atteintes de cette pathologie souhaitent avoir une descendance, ce qui est bien naturel.
Donc ce qu'on comprend à travers ce que vous nous dites, c'est qu'on a fait quand même beaucoup, beaucoup de progrès sur le traitement, enfin des symptômes en tout cas, c'est ça. Donc qu'est-ce qui reste comme symptômes qu'on a du mal à traiter encore aujourd'hui?
Alors justement, je disais tout à l'heure, 89, on identifie le gène, on se lance dans la chasse, entre guillemets, aux mutations. Alors certaines sont très connues, comme la Delta F508, c'est la principale qui manque, c'est une classe 2, donc ça veut dire que la protéine est synthétisée, mais elle reste dans le cytoplasme de la cellule, elle ne va pas jusqu'à la membrane.
Elle est peu efficace, quoi.
Voilà. Et puis, il y en a d'autres, par exemple, comme la G551D, qui est moins présente.
Ça, c'est des noms de mutations.
Oui, c'est ça. D'accord. Qui est une classe 3. Là, la protéine est à la membrane, mais elle ne fonctionne pas. Donc, il faut...
Il y a un progrès, enfin.
Il y a un progrès, mais voilà. Donc, au fur et à mesure, on a mieux compris le gène, on a mieux compris la protéine, et derrière, ça a engendré deux stratégies. La première stratégie, c'est une stratégie pharmacologique, on va y revenir dans un instant. La seconde, c'est celle de la thérapie génique, on y reviendra également.
Oui, aussi, oui.
Donc dans les années 2000-2010, en fait, les Américains, la société qui avait monté une entreprise à la mode américaine qui s'appelle toujours Vertex, ont criblé des dizaines de bibliothèques de molécules chimiques sur des modèles cellulaires. Et ils ont fini par trouver en fait une molécule qui, sur cette fameuse G551D, qu'on appelle aussi la mutation celtique, donc elle est très présente en Bretagne, la partage avec nos cousins irlandais, gallois, écossais. Et puis, bien sûr, tous les gens qui sont partis de ces pays pour peupler le Canada, les États-Unis, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Et en fait, ils ont identifié une première molécule qu'on appelle l'ivacaftor. Et en 2011, ça a fait l'objet d'un très beau papier dans le New England Journal of Medicine.
Revue prestigieuse.
Revue prestigieuse, absolument. Et où on montrait que chez ces patients G551D traités par cette molécule, on normalisait le test de la sueur, donc et on améliorait considérablement les capacités respiratoires. Mais c'est de 4 à 6 % de la population totale des mucoviscidoses.
Oui, ah oui.
Donc le problème, ça a été de chercher d'autres molécules. Et donc c'est ce qui s'est passé. Et depuis, on a maintenant une trithérapie, le Trikafta, qui depuis septembre 2023 est même accessible aux enfants dès 2 ans. Avec des mutations. Donc aujourd'hui, on estime qu'environ les deux tiers des patients souffrant de mucoviscidose sont éligibles à ces molécules. Mais alors, comme tout...
Et c'est vraiment révolutionnaire, comme on a pu le dire à l'époque.
Alors, ça a été absolument révolutionnaire.
Ah ouais. Ça veut dire qu'ils n'ont plus besoin d'aller chez le kiné tout le temps. Enfin, ces enfants, en gros, ils peuvent respirer.
On continue à les suivre,
quoi.
Bien entendu. Ouais. Et les équipes, ici, dans le Finistère, c'est Roscoff, avec la fondation ILDIS, qui prend principalement en charge ces patients. Mais effectivement, ça a changé considérablement leur qualité de vie. Néanmoins, ce qu'il est à noter aujourd'hui, c'est tous les effets secondaires de ces molécules. C'est comme tout médicament, même le paracétamol.
Ce serait trop beau.
Ça serait trop beau. Et on a aujourd'hui des retours des patients sur à la fois des atteintes hépatiques. Or, on sait, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, qu'il y a déjà une atteinte, je dirais, de la sphère digestive chez ces patients. Donc, c'est des patients fragiles à ce niveau-là.
Ça empoisonne le foie, quoi, en gros.
Oui, ça provoque en fait une lyse du foie, pour certains, mais le paracétamol aussi.
Oui, bien sûr.
C'est également des atteintes d'hypertension artérielle, les syndromes je dirais, de réaction immunitaire, mais ça, ou inflammatoire, mais ça, c'est pour beaucoup de molécules. Il suffit d'être allergique et voilà. Et puis aussi une atteinte sur le plan psychologique. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'un certain nombre de ces malades, on aurait pu penser que suite à la prise de ce médicament, à l'amélioration sur le plan respiratoire, certains ont dit gagner 10 à 20% de capacité respiratoire, c'est énorme.
On aurait pu
penser que le moral aurait été meilleur.
Bah oui.
Et ben non. Ah. Et on a aujourd'hui environ 10% de la population traitée qui fait des syndromes dépressifs, qui a des idées noires.
Mais on est sûr que c'est lié à la molécule
Il y a eu plusieurs études qui ont été montrées. Et comme ça touche aussi les petits, il y a même parfois des terreurs nocturnes qui s'instaurent. Donc on voit bien que c'est pas complètement anodin. Et puis, surtout, ça veut dire que, je vous ai dit tout à l'heure, ça traite environ les 2/3 des patients. Dans ces 2/3, il y en a certains qui vont avoir des effets secondaires, donc c'est pas neutre. Et surtout, il reste 1/3 pour qui, aujourd'hui, on n'a toujours pas de solution.
C'est ça.
Et là arrive la thérapie génique, puisque la thérapie génique, le principe, c'est finalement de véhiculer le gène sain, ici CFTR en l'occurrence, au niveau respiratoire. Et là, quelque part, on s'en fiche du type de mutation. C'est donc mutation indépendante, alors que le traitement pharmacologique, c'est mutation dépendante.
Donc on inocule, entre guillemets, le gène sain. Et ça fonctionne.
Alors, on essaye de le faire fonctionner. Et le problème qu'on rencontre, le dernier essai en date a été réalisé par nos camarades britanniques. C'est un article dans le Lancet en 2015. Le problème, c'est que ils n'ont pas eu d'effet suffisant sur le plan respiratoire pour que ça engendre un bénéfice pour le patient. Hein, il y a eu une petite augmentation de la capacité respiratoire, mais on était autour de 5%. Et 5%, ça ne change malheureusement pas la vie de nos patients.
Ouais, ça ne suffit pas à avoir une vie
normale. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'avec les vecteurs qui sont des nanoparticules, dans ce cas-là, il y a eu une administration par mois pendant un an et qu'il n'y a eu aucun effet secondaire. 135 patients inclus et pas d'effet secondaire. Bon. Et donc ça, c'était le bon côté des choses. Et donc nous, à Brest, dans cette équipe que j'ai le plaisir d'animer, on travaille justement à développer des nouvelles nanoparticules pour être plus efficaces et surtout, puisqu'on le véhicule par aérosol, puisque l'objectif, c'est, on l'a dit tout à l'heure, c'était de toucher les poumons.
Les patients inhalent ce...
Exactement, c'est ce qui a été fait par nos camarades britanniques. Et le problème qu'on rencontre, c'est ce fameux mucus qui est très visqueux, qui, s'il piège les bactéries, il piège également nos nanoparticules. Il piège également les virus. Les virus qui ont été utilisés dans les années 2007-2008 pour faire de la thérapie génique étaient tout aussi bloqués que les nanoparticules. Oui. Donc aujourd'hui, on a une approche qui est celle de modifier ces nanoparticules qui comprennent aujourd'hui 7 à 8 composés chimiques différents, en plus de la séquence d'ADN qu'ils véhiculent, pour pouvoir également passer cette barrière du mucus. Avoir une activité mucolytique pour permettre la pénétration de ces nanoparticules jusque dans la cellule, histoire d'y délivrer la petite séquence d'ADN qui code le CFTR.
Et donc les nanoparticules qui sont les particules vraiment, vraiment petites, donc c'est quoi, ça se joue sur la forme de la nanoparticule ou vous lui mettez des petites ailes pour qu'elle avance?
Exactement, on aimerait bien. Déjà, il faut qu'elle résiste à l'aérosol, c'est-à-dire que l'aérosol, c'est... Les gens ont l'image de la ventoline, ça, c'est très simple d'utilisation, c'est très compliqué sur le plan de la galénique, c'est-à-dire la manière dont on va structurer les choses, parce qu'évidemment, si le principe actif arrive dégradé sur le site actif, il ne fera pas grand-chose. Oui. Donc là, c'est tout le but de notre travail, c'est-à-dire qu'on souhaite, autour de la nanoparticule, y greffer des mucolytiques, et on explore un certain nombre de chimiothèques, y compris des molécules qui viennent de la mer.
Des mucolytiques, ça la rendrait plus glissante, ça serait quoi?
Ça leur permettrait finalement de dégrader ce mucus au cours de leur progression.
Ah d'accord.
Et donc on le met en couronne autour de nos nanoparticules et on essaye comme ça d'évaluer leur capacité à rentrer. Mais ce qu'il ne faut pas toujours oublier avec les maladies rares, on dit certaines...
Oui, c'est rare quand même. C'est quoi, 500 personnes en Bretagne, c'est ça, qui sont atteintes de mucoviscidose?
Oui, un peu plus, mais on est effectivement sur 800-900 personnes qui souffrent des différents types de mucoviscidose. Et voilà, on a sur cette population, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Et surtout, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la thérapie génique s'en fiche, entre guillemets, de la mutation qui provoque, puisqu'on approche, on apporte le gène sain directement dans toutes les cellules. Donc on est mutation indépendante, alors que la thérapie pharmacologique est une approche mutation dépendante, hein, puisqu'on disait tout à l'heure qu'il y a encore un tiers des patients qui ne sont pas éligibles à ces traitements.
Et d'ailleurs, c'est une question que je voulais vous poser, mais c'est forcément la mutation génétique seule, entre guillemets, qui provoque la maladie, ou est-ce qu'il y a des facteurs épigénétiques, enfin, je sais pas, d'environnement, alors, qui aggraveraient le...
Alors, C'est une très bonne question. Effectivement, après le mode de vie, ce qu'on appelle les habitus, vont jouer sur l'évolution de la pathologie. Mmh. Mais l'origine du problème, il est bel et bien situé au niveau du gène.
Et cette métamorphose du gène, elle est liée, est-ce qu'on sait à quoi elle est liée? C'est juste le hasard? Ou est-ce qu'il y a, pareil, des facteurs environnementaux qui provoqueraient la mutation?
En fait, il y a eu une très belle étude qui a été menée par notre directrice d'unité, Emmanuel Génin, avec Claude Ferrec et puis Phil Farrell aux États-Unis, à Madison, dans le Wisconsin, il y a maintenant quelques années, et qui a mis en évidence le moment où était apparue la mutation CFTR. Et effectivement, elle est apparue chez les peuples celtiques, chez les Belbiqueurs, comme on disait à l'époque, hein, donc environ moins 5000 ans avant Jésus-Christ. Et donc, on peut tracer les évolutions des populations comme ça.
On sait quand, mais on ne sait pas pourquoi.
Enfin, voilà. Alors, on ne sait pas où elle est apparue, mais ce qu'on est sûr, c'est que, vu la proximité des profils génétiques entre, par exemple, les îles britanniques et la Petite-Bretagne, on sait parfaitement qu'il y a eu des échanges très tôt.
Ah oui.
Ouais, oui, il y a eu déjà des migrants à cette époque-là.
Bien sûr, il y en a toujours eu.
Et donc, qui ont véhiculé les gènes de notre espèce Homo sapiens.
Oui, c'est ça, parce que c'est évidemment, comme c'est génétique, il faut que les deux parents aient la mutation,
oui,
c'est ça?
Oui, c'est une maladie qu'on dit récessive, c'est-à-dire qu'il faut que chacun des parents transmette un des allèles mutés. Mmh. Voilà. Si jamais l'un des deux ne transmet pas un allèle muté, l'enfant sera lui-même porteur, mais pas atteint. Il aura une copie qui fonctionne normalement. Alors qu'à contrario, on a des pathologies. Je pense à la maladie de Steiner, par exemple, qui est une maladie neuromusculaire. Et là, en l'occurrence, il suffit malheureusement d'avoir un seul allèle
une
muté.
Une version du gène, quoi.
Ouais, ou bien, il y a la maladie de Huntington aussi, qui est une maladie neurodégénérative.
Un seul chromosome, une seule partie du chromosome.
Suffit. D'accord. Mmh. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, et ça je tiens à le dire, c'est que toutes ces pathologies qu'on dit des maladies rares, en fait, ce sont d'excellents modèles de pathologies très fréquentes. L'atteinte pulmonaire, ça touche aussi ce qu'on appelle les bronchopathes pulmonaires, en particulier liées au tabagisme.
Ah ben ça oui.
Donc, bien entendu, si vous êtes en mesure de délivrer une séquence d'ADN pour limiter, je dirais, les effets de l'évolution de la pathologie, si vous êtes capable de le faire dans la mucoviscidose avec ce mucus très visqueux, cet environnement qui est extrêmement challenging, hein, finalement, pour nous, eh bien, celui ou celle qui arrivera à planter le drapeau et à montrer qu'il a apporter un véritable bénéfice aux patients par cette stratégie de thérapie génique, il y aura des déclinaisons qui se feront dans d'autres pathologies.
Même si ce n'est pas de génétique, parce que fumer, ce n'est pas...
Bien sûr que non, mais par contre, les conséquences cellulaires et moléculaires, elles vont être présentes. Il y a de l'inflammation dans ce cadre-là aussi. Donc, on peut imaginer aller réguler et jouer sur le type, cette fois-ci, de gène qu'on peut délivrer. Par exemple, au lieu d'avoir le gène codant CFTR, on peut avoir un siRNA, c'est-à-dire un ARN messager, un ARN interférence qui va venir couvrir l'expression de certains gènes pour éviter qu'ils ne provoquent l'inflammation, entre guillemets. Donc, une fois que vous avez des outils pour finalement décliner ça, vous pouvez l'appliquer à un champ considérable de maladies. C'est le cas aujourd'hui, si on prend les maladies neuromusculaires, c'est pas le propos aujourd'hui, mais on imagine que les gens atteints de myopathie, quelle qu'elle soit, Duchenne ou d'autres, eh bien, les faiblesses musculaires, c'est aussi ce qu'on rencontre avec le vieillissement naturel. Mmh. Les maladies neurodégénératives.
Alzheimer, Parkinson.
Voilà, derrière, il y a Alzheimer, Parkinson. Donc, en fait, les maladies rares ont permis, au fil du temps, d'abord de mieux comprendre l'origine d'un certain nombre de maladies, et deuxièmement, de forger des outils qui auront un intérêt pour le plus grand nombre. Et donc, c'est ce que nous essayons de faire dans notre équipe de recherche à Brest.
Et vous êtes combien, là ?
Alors, aujourd'hui, on est 23.
Ah oui.
Voilà, sur une équipe qui fait... Alors, on est la plus petite des trois équipes.
Oui, c'est pas mal.
Mais l'unité, dans sa globalité, fait presque 120 personnes. Et moi, je voudrais dire surtout que on est aussi avancé à Brest parce que, et vous l'avez mentionné, je vous en remercie infiniment, on a eu des gens extraordinaires dans le territoire breton en particulier, qui se sont particulièrement mobilisés.
Les associations,
ouais, exactement.
Vaincre la muco, tout ça. Ouais.
Raymond Milin à Plouescat avec le tournoi de foot des plus jeunes. Et puis évidemment, toute l'équipe de la PLB à Calac qui a été depuis des années, depuis maintenant près
Virade
30
de
ans,
oui,
les Virades,
ouais.
Yannick Cornanguer et les autres à Belle-Île-en-Terre qui ont été absolument fabuleux. Et,
ouais.
et sans eux, on serait certainement plusieurs années en arrière par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui.
Bon, comme vous êtes nombreux, eh bien, je pense que vos collègues viendront encore dans cette émission nous parler de cette recherche. Merci beaucoup.
Je vous en prie, merci de votre invitation. À bientôt.
À bientôt.